Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la radio Compost. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une interview dans le cadre d'un projet scolaire. La personne interviewée n'est autre qu'Anne-Laure Pitchot, une agricultrice qui a fait le choix il y a quelques années, avec son mari Olivier, de faire de sa ferme une ferme pédagogique, la ferme au son des cloches. Elle nous a donc raconté son parcours, mais aussi éclairé sur les enjeux environnementaux auxquels elle fait face dans son métier. Une interview particulièrement enrichissante, vous allez le voir. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse directement écouter ce qu'elle a à nous partager. Bonjour Anne-Laure, merci d'avoir accepté cette interview. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux environnementaux et climatiques, notamment ces enjeux-là dans le cadre de ton travail. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Ok, alors moi je m'appelle Anne-Laure, je suis agricultrice accueillante, je suis paysanne plus exactement, c'est-à-dire que je m'occupe de mon petit bout de pays. Avec mon mari Olivier, du coup, on a des vaches laitières en agriculture biologique sur Saint-Paul-en-Jarret. Et depuis 4 ans, je les rejoins donc sur l'exploitation pour développer également de l'accueil pédagogique de tout public, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, en passant par les scolaires, les centres de loisirs et les publics spécialisés, car j'étais aussi avant éducatrice spécialisée.
Du coup, si j'ai bien compris, à l'origine, tu étais agricultrice. Comment tu as eu l'idée de mettre en place cette ferme pédagogique ?
Alors, la ferme pédagogique, l'idée était là avant même que moi je sois installée en tant qu'agricultrice. Je suis fille d'agriculteur. Et j'ai passé un BTS gestion et protection de la nature avec une option animation nature. Et étant fille d'agriculteur, c'était plus simple pour moi de parler concrètement du vivant et de l'environnement sur un support qu'est la ferme avec les animaux qui sont domestiqués du coup, plutôt qu'avec les animaux sauvages. Et comme après mon BTS, j'ai également fait une école d'éducatrice spécialisée, et ben j'avais aussi cette casquette-là de pouvoir apporter un équilibre dans le développement de la personne à n'importe quel public.
Comme tu nous l'as dit, vous accueillez différents types de publics. Comment vous sensibilisez les visiteurs à l'importance, par exemple, de l'agriculture biologique et comment vous les sensibilisez à préserver l'environnement ?
Alors, ça dépend forcément du type de public, parce que quand on accueille des enfants de crèche, on ne sensibilise pas directement les enfants. Et puis, ce qui est important aussi à mes yeux, c'est de pouvoir déjà permettre aux gens d'apprécier la nature et l'environnement pour pouvoir ensuite avoir envie de les protéger. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est complètement déconnecté du vivant et de la nature. Et donc voilà, l'idée, c'est déjà qu'ils prennent du bon temps dans ce cadre-là, ce qui n'est pas forcément évident. On le voit notamment avec les ados, quand ils arrivent, ils disent « Mais il n'y a pas de bus, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de magasin, mais comment vous vivez, quoi ?» Et donc voilà, l'idée, c'est déjà, c'est d'avoir une première expérience de moment agréable dans un environnement parfois méconnu. Donc de se reconnecter avec les bruits, avec les odeurs, avec différentes sensations. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, on va quand même, avec certains publics un petit peu plus loin, après l'apprécier, on va essayer d'apprendre à la connaître. Et pour effectivement après voir comment nous, en tant que citoyens, nos choix peuvent et notre esprit critique peut être développé pour vraiment intervenir sur cet environnement-là, notamment par rapport à notre consommation alimentaire ou par rapport à nos différents modes de consommation.
Et du coup, vous accueillez des groupes scolaires, donc des enfants. Est-ce que, quelque part, c'est plus facile de leur faire comprendre votre métier, de les sensibiliser ? Pour vous, quel est l'intérêt d'accueillir des groupes scolaires ?
Alors, tous les publics ont un intérêt pour nous déjà, plus on diversifie, plus c'est intéressant. Et les scolaires, on peut avoir l'intérêt que les enseignants rebondissent sur notre discours. Ça fait aussi partie des programmes. Du coup, on sait que ça va être repris. Là, on sait où on va. Après, on a aussi des groupes pour lesquels c'est plus difficile à gérer, ce qui est centre de loisirs ou les groupes scolaires, mais qui viennent vraiment une fois en fin d'année, où on a un peu plus le plaisir que le côté apprentissage. Et du coup, il faut être encore plus habile pour passer des messages sur la protection de l'environnement, de la nature. Comme j'expliquais tout à l'heure, si déjà ils ont découvert quelque chose de nouveau, qu'ils se sont un peu reconnectés au vivant et qu'ils ont apprécié, on a déjà commencé de gagner un petit peu notre objectif.
J'ai remarqué que vous aviez le label agriculture biologique. Est-ce que, selon toi, c'est indispensable pour préserver l'environnement ? Est-ce que c'est important d'avoir ce label ?
Le label, ça reste un label, comme son nom l'indique. Donc, il permet juste de labelliser ce qu'on fait concrètement. Et sans le label, on ferait quand même la même agriculture. Donc, ça améliore pas forcément nos pratiques. Par contre, c'est une question de communication. Et forcément, c'est plus facile de dire on a le label agriculture biologique et de rebondir derrière sur les choix que ça implique dans notre manière d'exploiter la ferme. Alors après, la question des labels est une grande question. On s'interroge notamment sur un label qui est ressorti pas très tardivement, le label HVE, qui est le label haute valeur environnementale. Et c'est un label en fait qui a plusieurs critères sur l'environnement, mais qui est moins exigeant que le label d'agriculture biologique. Mm-hmm. Et du coup, beaucoup d'agriculteurs en agriculture conventionnelle long, notamment pour justement pour développer un peu la communication. Donc les labels, ça a double tranchant. Nous, si on a choisi le label agriculture biologique, c'est par choix dans notre métier, dans nos pratiques de préserver l'environnement. Au-delà du label, on met des pratiques en place qui peuvent aller plus loin que ce qui est exigé par le label.
Avant de venir, je me suis aussi permise de regarder votre site internet. J'ai vu que vous parliez un petit peu d'environnement, d'énergie renouvelable, du cycle de l'eau, des déchets, etc. Et concrètement, sur votre exploitation, qu'est-ce que vous mettez en place pour préserver l'environnement et travailler de manière la plus écologique possible?
Bon, alors déjà, on réfléchit à nos déchets, ça c'est sûr. Donc tous les déchets de l'exploitation, tous ceux qui peuvent l'être, sont dans des circuits de recyclage, notamment les bâches d'ensilage, les ficelles de botteron, des choses comme ça. On est vigilant à tous les traitements qu'on peut apporter, que ce soit au troupeau ou aux parcelles. Donc on n'a aucun intrant chimique sur les parcelles, mis à part le fumier et le lisier de vache. Ensuite, on a réintroduit des haies également pour pouvoir retravailler sur la biodiversité et sur l'érosion aussi, pour éviter l'érosion des terrains. Si ça demande plus de travail d'entretien. Ensuite, on a mis en place un filtre à roseaux pour traiter toutes nos eaux sales. Sans doute plein d'autres choses. Avec les groupes, on essaye d'être vigilant aussi aux produits d'entretien qu'on utilise, aux papiers essuie-mains qu'on utilise, à la gestion des déchets. On leur parle de comment trier les déchets de pique-nique. C'est difficile, c'est un premier pas, il faut qu'il soit repris à la maison et à l'école pour être complètement intégré.
Avec la crise énergétique qu'on subit, oui. J'imagine que vous, ça vous impacte forcément. Comment vous faites pour pallier à ça?
Alors malheureusement, on le subit plus qu'autre chose. Donc effectivement, on voit déjà le coût sur tous les matériaux, mais notamment sur l'électricité. Nous, on utilise l'électricité pour... on fait du séchage en grange. Donc c'est le foin qui termine de sécher en grange, donc qui utilise des gros ventilateurs sur les périodes de foin. Donc ça, c'est des périodes où nous, on peut pas réduire notre consommation électrique. Donc forcément, c'est le prix de nos charges qui augmente. Il en est de même pour tout ce qui est les carburants, des matériels agricoles, des tracteurs qu'on utilise. Donc ça, on peut que le subir. Pour l'instant, on n'a pas fait de choix de répercuter ces charges sur le prix des visites, par exemple. Parce que l'idée, c'est quand même de rester accessible au plus grand nombre. On n'a pas non plus le choix de vendre le lait plus cher. Le lait en agriculture biologique, en ce moment, connaît aussi une crise. Il est presque moins payé que le lait en agriculture conventionnelle. Donc voilà, on subit plus qu'autre chose la crise énergétique, malheureusement.
Et du coup, alors, comment votre ferme contribue à la biodiversité de la région?
Alors, nos pratiques, forcément, elles interagissent directement avec l'environnement proche de la ferme. Donc, sans pesticides, sans insecticides, forcément, c'est des insectes qui se développent, des oiseaux qui se développent. On a encore la chance d'avoir énormément d'hirondelles sur notre lieu. Encore beaucoup de faucons cresserelles. Enfin, on a la chance d'avoir tout ça. On a aussi la chance d'avoir plein de petites plantes qui peuvent paraître être des mauvaises herbes, mais qu'on essaye de pas voir comme ça. Donc, de cohabiter avec l'ensemble de la biodiversité. Et du coup, en parlant de nos pratiques, forcément, petit à petit, avec les différents publics, l'idée, c'est qu'on puisse développer au moins l'esprit critique dans un premier temps, que d'autres pratiques sont possibles et qu'on a un peu tous notre responsabilité dans ça. Donc c'est plus un effet papillon et un effet goutte d'eau qu'autre chose. Hein. On ne change pas fondamentalement tout, mais on fait notre part. On fait notre part du colibri.
Ok, et du coup, donc la dernière question, c'est selon vous, comment les enjeux environnementaux auront évolué dans 10 ans? Est-ce que ça aura changé? Comment vous percevez le monde de demain?
Alors, c'est pas évident. Si déjà je te parle des deux dernières années, sur notre ferme, on n'avait pas l'eau courante. Et on a vu déjà les choses évoluer. Donc Olivier a grandi ici. Il a toujours eu de l'eau de source, de l'eau de prélèvement privé, de captage privé. Et ils n'ont jamais manqué d'eau. Nous, ça nous est arrivé dans les trois dernières années de ne plus avoir d'eau deux fois au robinet avant d'être relié à l'eau courante. Donc nous qui avons des enfants... On s'est dit, mince, on n'est pas en Afrique. Et il n'y a plus d'eau, donc on est vraiment... On est vraiment touchés directement. Hein, c'est pas forcément dans 10 ans que ça va arriver. On a aussi fait des analyses avec des techniciens sur l'état de nos prairies. Et on a un technicien qui nous a dit, ben, vous avez le climat quasiment maintenant de la ville de Orange. Et à Orange, il n'y a plus d'élevage. Vous ne trouverez pas d'élevage de vaches laitières dans le sud de la France. Donc, c'est des choses qu'on essaye de relativiser et en même temps d'anticiper. Effectivement, peut-être que dans 10 ans, on ne pourra plus avoir de vaches laitières sur Saint-Paul-en-Jarret. Donc, il faudra qu'on s'adapte à tout ça. Donc, nous, pour l'instant, notre idée, c'est d'avoir un troupeau à la taille de nos terrains. On n'achète pas de nourriture ou très peu chez des voisins pour combler. Mais voilà, l'idée, c'est pas de faire grossir le troupeau et d'acheter, mais bien d'essayer de garder un troupeau qui s'adapte au terrain et les terrains qui s'adaptent au climat. Donc, on essaye de faire au mieux avec tout ça. Donc, c'est un peu difficile hein, de se projeter, même dans 10 ans, parce que ça évolue rapidement. On y pense en essayant de pas trop déprimer. Voilà, de rester un peu positif dans tout ça. Il y a toujours eu des aléas climatiques dans notre métier. On a toujours été dépendant, et on le sera toujours, du climat et de la météo. Mais c'est difficile de savoir, même dans 10 ans.
Ce sera les mots de la fin, du coup.
Pas de problème.
Merci beaucoup.
De rien.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette interview. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou TikTok. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus, nous vous conseillons le film documentaire « La ferme à Gégé », sorti en février 2023 et réalisé par Florent Verdet, qui raconte l'histoire de Gégé, qui vit depuis trois générations au fermage dans le bocage normand. Dans les années 90, endetté, il transforme son exploitation en un lieu unique d'accueil pour enfants. Mais en l'absence de successeur et lui menacé d'expulsion, la ferme risque de disparaître et avec elle un regard si particulier sur le monde. Un documentaire qui aborde le sujet des fermes pédagogiques d'une manière bien singulière. Merci pour votre écoute et à bientôt.